Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC, les grandes gueules.
Il est ingénieur, ça fait longtemps qu'il travaille sur ces questions d'environnement. Il avait fait en 2007 la plateforme écologique de Nicolas Hulot. Jean-Marc Jancovici, il le dit aujourd'hui, si on veut sauver la planète, il va falloir instaurer un quota de vol en avion.
Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, c'est pas zéro, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, ben, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau.
Donc, l'étranger, c'est fini, quoi. On reste chez soi.
Ou on y va en train. Donc, on n'est pas complètement coincé. Il faut retrouver le temps du voyage, qui est un voyage long. Et en fait, quand le voyage est long, le voyage lui-même est une découverte.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Jean-Marc Jancovici ?
Oui, il fait partie de toute cette génération qui en a profité, a parcouru le monde en avion. Je pense que Jean-Marc Jancovici doit avoir le bilan carbone de beaucoup de Français réunis. Ça fait penser aussi à Yann Arthus Bertrand qui a parcouru le monde en hélicoptère, est devenu très riche grâce à ses photos vues du ciel qui étaient magnifiques et qui maintenant nous explique qu'il faut arrêter, il ne faut surtout pas faire comme lui et il faut rester, il ne faut plus bouger. Donc bon, déjà, première chose. La deuxième chose, c'est que Il fait une fracture entre les jeunes qui auraient le droit donc de partir et les vieux, je ne sais pas à partir de quel âge, qui ne pourraient que voyager en Corrèze, où c'est très beau d'ailleurs la Corrèze, ou en Corse, etc., en prenant le bateau. Donc pour les retraités de demain, bah, je ne vois pas quel intérêt d'être à la retraite et qu'une bonne retraite, parce que tu ne pourras plus voyager en avion, tu devras rester chez toi, dans ton territoire.
Est-ce que, ou en le même train, temps, ou tu prends le train.
Ou tu prends le train, mais enfin tu ne peux pas aller partout en train, parce qu'il dit oui, c'est tu peux aller en Europe, enfin, donc c'est-à-dire qu'il y a des continents entiers que tu ne pourras plus jamais visiter. Il va nous expliquer aussi qu'il n'y aura plus donc de business. Alors, on fera tout par Zoom, on ne se rencontrera plus. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce qu'on n'a pas le choix, comme il le dit? Puisqu'il dit, il va même plus loin en disant, de toute façon, un jour, il n'y aura plus de pétrole, donc de toute façon, on ne pourra plus prendre l'avion. Ça fait 50 ans qu'on lui dit qu'il n'y aura un jour plus de pétrole. Bon, il faut être prudent sur ses projections. Mais est-ce qu'il a raison sur le principe?
Qu'en dites-vous, Thomas?
T'es un Thomas, toi, qui as pris l'avion.
Non, j'ai quand on regarde purement, enfin, d'un point de vue, un travail purement statistique, théorique, etc., quand vous savez aujourd'hui qu'il y a 90% des gens dans le monde qui n'ont jamais pris l'avion.
C'est vrai.
Si tout le monde se mettait à prendre l'avion, on va dire comme les 10% des Français les plus riches, qui sont pas de gens très riches, mais qui vont gagner 2500, 3000 euros en termes de revenus, hein, je ne parle pas du patrimoine, et qui, eux, peuvent prendre l'avion. Si vous mettez le monde comme ça, effectivement, la contrainte du réchauffement climatique ne tient pas. Je veux dire, quand on regarde les courbes d'un point de vue purement théorique. Maintenant, quand on passe dans la vraie vie, avec la question du réchauffement climatique qui est quelque chose de réel. En fait, c'est très difficile aujourd'hui, quand on a eu des affects qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit, où on vous montre des destinations qui sont maintenant accessibles à bas prix, où vous allez voir sur une plage quelqu'un danser comme ça à Rio de Janeiro, où vous avez un Paris-New York, et vous pouvez trouver un Paris-New York maintenant à des prix défiants, toute concurrence, parfois moins cher qu'un voyage en train
en
France, que vous pouvez faire des Erasmus, qu'on vous a dit d'être mobile, d'aller bosser à l'autre bout du monde, etc. Il va falloir un travail, mais énorme, énorme, je veux dire, en termes de représentation et d'affect pour faire marche arrière. Parce que vous dites à n'importe quelle personne, même qui n'a pas pris l'avion, de pauvre, vous allez finir à faire vos vacances en Corrèze une fois par an, alors qu'il y a 22 millions de Français qui ne partent pas en vacances. Je pense que les personnes vont vous dire non, moi, c'est pas possible ça. Je veux avoir la possibilité
de rêver,
bien sûr. Et donc, je pense que concrètement, ça va être très difficile à mettre en place. Maintenant, j'aimerais bien dire une dernière chose.
D'autant plus que je regarde les chiffres, ce sont plutôt les jeunes qui prennent l'avion. Alors,
mais oui, mais bien sûr. Aujourd'hui, l'avion est est très peu cher.
25-34.
Oui, et puis les jeunes ont grandi dans ce monde globalisé. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui.
Avec les réseaux sociaux, etc. d'ailleurs mieux d'aller chez l'autre.
Mais bien
c'est
sûr.
La génération Erasmus.
Mais bien sûr.
Et donc là, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'on va rester chez soi. Et on... oui, bon.
Mais bien sûr. Mais il y a même eu ce débat, vous en souvenez, à l'époque de Trump, où c'était ceux qui n'avaient pas de passeport qui votaient plutôt Trump, et que ceux qui avaient des passeports étaient plus ouverts sur le monde et ne votaient pas Trump. Et il y a
même
toute une partie des gens très progressistes qui ont dit le voyage ouvre, etc.
Mais certains même disent que les démocrates, là où on voyage plus, il y a plus de démocratie et moins de nationalisme et moins de.
Mais j'aimerais bien ajouter un dernier élément. Moi, il y a quand même quelque chose. La contrainte climatique, quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le brouillard. Alors, j'ai fait mon calcul sur l'ADEME de mon empreinte carbone. Je suis à peu près à un peu plus de 5 tonnes. Les Français sont à 8 tonnes. En 2030, on doit être à 5 tonnes. En 2050, on doit être à 2 tonnes. Moi, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir la mesure réelle de mon empreinte carbone parce que ça permet aux gens qui sont « conscientisés » entre guillemets de faire des efforts ou des arbitrages dans leur vie pour être dans la trajectoire que nous avons mis en place normalement à la COP 21. Et donc ça, moi, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, ce brouillard qu'il y a autour de son impact carbone fait qu'en fait, on n'ajuste pas ses comportements quand on pourrait les ajuster. Et la dernière chose que je dirais, excusez-moi, j'ai été un peu long, c'est que ce n'est pas encore une fois aux citoyens de faire ces ajustements, mais c'était à la structure de l'économie, l'offre, la production, etc., à faire des efforts. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, on prend 4 avions et en même temps, je ne sais pas, on permet à H&M de faire de la fast fashion, d'aller produire au Bangladesh.
En ce moment, c'est quand même Arro sur l'avion, là. Il y a une cible.
Oui, voilà. C'est 5%.
Au pays d'Airbus.
Le digital, c'est aussi 5%. Enfin, à un moment, il y a des efforts peut-être à faire également.
Mais tu t'interroges quand même, quand tu prends l'avion, tu te dis, ah, j'aurais pas dû.
Franchement. Non, attends, ça dépend. Par exemple, là, je vais aller faire la promotion de mon livre au Mexique. Je vais prendre l'avion. Il y a pas de souci.
Quoi ?
Maintenant,
mais c'est ça qui pollue le plus.
Non, non, bien sûr.
Paradoxalement, Monsieur Beaune nous interdit de prendre l'avion de Paris à Bordeaux. Mais les longs courriers, c'est ce qui pollue le plus.
À partir du moment où il y a une solution, possible. Et il y a toujours les comparaisons des prix. Mais à partir du moment où il y a une solution possible en train,
c'est le long courrier.
Je prends le train. Voilà.
C'est pas les.
Bah, bien sûr.
C'est pas le. C'est pas les moyens courriers.
Antoine, tu prends beaucoup l'avion ou pas ?
Pas beaucoup. Non. Je l'ai un peu pris durant la campagne présidentielle pour aller dans le sud, mais sinon je le prends très rarement.
C'est marrant, c'était dans le
sud. Au mieux.
Tu as pris des longs courriers ? Le dernier long courrier remonte à quand ?
Je suis allé une fois aux États-Unis quand j'étais jeune. C'était mon rêve. Mais depuis, j'ai fait des petits sauts en Europe, rien de plus. Donc, je ne suis pas un gros consommateur d'avions. Honnêtement, je pense que c'est une question sociale, de niveau de revenu. Et donc là, on relance un peu une guerre des classes. Moi, dans ce sujet climatique, je vois une espèce de guerre des classes où ceux qui ont de l'argent trouveront toujours un moyen d'aller chercher l'avion, je ne sais pas, à l'aéroport de Luxembourg.
Oui, dans des pays qui ne l'interdiront pas. Ouais.
Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça va toujours tomber sur les mêmes. Et on revient au débat qu'on a souvent. C'est toujours les mêmes qu'on emmerde. Et là, avec une proposition comme celle-là, limitée à 4 vols par an, par vie, moi qui suis
deux quand tu es jeune et deux quand tu es
moi qui ai fait
peut-être troqué avec d'autres,
moi qui ai fait modestement un peu de politique et qui conseille aujourd'hui là-dessus, si vous voulez défendre une idée, ne sortez jamais quelque chose d'aussi extrême. Et donc, je ne comprends pas ce que nous fait Jean-Marc Jancovici, qui a beaucoup de bonnes choses par ailleurs, notamment sur le nucléaire. Mais là, dire « Bon, bah, les gars, ce sera 4 par an. » Mais en fait...
Il ne fait pas de politique, justement.
Ça me paraît tellement fou.
Mais par vie, des politiques.
Et donc, et donc là, je me dis, mais ça dessert complètement l'objectif.
La cause.
Et oui, je suis plutôt d'accord. Sensibilisé dans ma génération à l'écologie, mais en ce moment, là, je regardais la télé, on a la première pub, c'est l'électricité verte, ensuite la voiture verte, ensuite la nourriture verte, etc. On n'a plus que du vert, on n'y croit plus. Et en fait, je pense qu'on arrive ou on arrivera assez vite à dégoûter les gens. Ouais. En leur faisant peur, bah finalement, ils vont dire eh « Oh, j'y crois même pas, les ZFE. » Alors là, les ZFE... Les zones à faible émission.
On va interdire dans les centres-villes.
Je regardais, c'est 54% du parc qui ne pourrait plus rouler au 1er janvier 2025. Mais ça n'est pas possible. Arrêtez de faire peur aux gens, vous allez créer
l'effet inverse. D'ailleurs, des villes écologistes reviennent en arrière, comme
Lyon. Mais oui.
Elina.
Oui,
alors, moi, ce que je voulais dire... C'est que je suis d'accord avec Thomas, faut agir. Et moi, je suis prête à faire un compromis, bien que moi, je dois prendre l'avion une fois tous les 20 ans.
Là, tu vas le prendre bientôt.
Mais demain, c'est pour des raisons professionnelles. Et c'est à Montréal, j'ai pas le choix. J'ai pas y aller à la nage.
En bateau.
Non, mais attends.
C'est ce que nous dit Jean-Claude ici.
Oui, mais quand on...
C'est-à-dire que tu pars, une semaine avant ton...
Non, mais sur le bateau pollue, hein. C'est pas un bateau à voile.
Olivier, tu sais bien que quand ton patron te dit à telle date... Non, mais... Tu vois,
il faut créer le congé transport écologique.
Non, mais moi, en fait,
pas mal.
En fait, moi, Ce qui me... Moi, je pense que c'est impossible, quatre avions par vie. Je pensais à des pays comme les États-Unis ou le Canada, parce que je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Ben, eux, ils sont obligés de prendre l'avion pour aller d'un État à un autre. Ouais.
Bah parce qu'ils n'ont pas beaucoup de trains, ils n'ont pas nos TGV.
Oui, mais d'accord, mais...
Donc là, ils pourraient faire des efforts.
Voilà,
oui, là, ils
peuvent
faire des efforts, je suis d'accord.
Mais par contre, à l'intérieur de notre France, oui, c'est vrai, même toi, tu aurais pu prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller dans le sud. C'est vrai. Non, mais je me dis, après, jusqu'où on va? Ça veut dire qu'après, on va nous dire une machine à laver par mois, on va nous dire...
Oui, mais oh, c'est ça. Ouais. On l'a dit cet hiver.
Faut
je rappelle, on l'a dit aux Français, à col roulé, il ne faut pas
voilà. Le faire de la distance.
C'est ce qu'on a dit cet hiver.
Non, mais on peut aller très très loin.
On a eu un ministre en col roulé qui nous a dit, attention, col roulé et 19 degrés.
Et après, n'oublie pas, on va nous dire...
On est dans l'état nounou.
Une douche par semaine. Oui, enfin, ça peut aller... Très très loin quoi.
Non, moi je suis français. Mais... Dès qu'on me dit quoi faire, je fais le contraire. Donc à mon avis,
je suis d'accord. Pardon, je suis d'accord avec Antoine. C'est-à-dire que ceux qui auront les moyens iront dans des pays où on aura la liberté de voyager. Parce que ça, cette mesure, il n'y a qu'en France on en parle.
C'est comme, voilà.
C'est comme l'interdiction des vols à 2h30. Il n'y a qu'en France qu'on le fait. Il paraît que c'est génial. Mais donc on ira dans les pays quand on aura les moyens, on pourra voyager. Et puis ceux qui ne pourront pas bouger seront prisonniers de ces mesures.
Non mais par contre, je voulais juste rajouter un truc. Parenthèse.
J'en prie.
Peut-être qu'aussi, moi je crois beaucoup à l'évolution, tout ça. Peut-être qu'un jour, on remplacera, je sais pas quoi, le kérosène par...
C'est en train d'arriver les carburants.
Voilà, ben voilà.
Mais l'industrie aéronautique, elle travaille là-dessus.
Ben voilà.
D'ailleurs, c'est même son intérêt. Ouais. De moins dépendre effectivement du pétrole et d'aller vers des avions propres, comme on dit, c'est-à-dire kérosène, il y a la fusion nucléaire. C'est pour ça que je suis étonné d'un ingénieur quand Jean Covici, moi je trouve qu'il disait des choses très intelligentes, il dit de plus en plus de conneries. Et alors c'est peut-être que c'est parce qu'il a, je sais pas, une surface médiatique, que ça lui monte à la tête, mais lui qui est pro-nucléaire, était plutôt dans l'idée qu'on va faire le pari de l'innovation, il nous invente des mesures que Marine Tondelier n'ose pas donner, quoi. C'est ça qui est bizarre.
Moi je suis progressiste, je crois au progrès au sens premier du terme, mais je suis persuadé qu'on trouvera des solutions.
Oui. Donc, c'est l'intérêt de tout le monde,
mais oui,
et même d'Airbus et qui travaille là-dessus, ou d'Assaut.
Non, mais là, ce que l'on constate quand même, c'est que quand il y a des lignes, par exemple, sur le rail, quand vous avez une ligne comme Paris-Marseille qui fait 3 heures, bah, naturellement, les gens vont prendre
donc
plus
on a pas
le
train.
L'Eurostar, aujourd'hui, si je veux dire, les gens vont prendre un avion Paris-Londres si vraiment il y a un prix très compétitif. Mais sinon, tu prends l'Eurostar, t'es de centre-centre. Donc, quand tu as des alternatives crédibles, là, normalement, l'aviation, ben, le rail se substitue à l'aviation. Après, il y a autre chose que je voulais dire, et là, je reviens, Olivier. Ce qu'a dit Olivier. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui tiennent les positions les plus radicales, quand vous regardez, c'est toujours des gens qui ont tout fait avant.
Mais oui.
C'est inaudible pour la plupart des gens. Parce que moi j'ai des gens dans ma famille, par exemple, qui ont fait constamment leurs vacances en France, qui sont à la retraite, qui aujourd'hui, grâce aux avions low cost et aux propositions de séjour à moindre coût, peuvent partir en Grèce, au Maroc, etc. Et qui adorent ça et qui en profitent après une vie de travail. Et il y a un mec qui va se ramener, qui a fait 3 fois le tour du monde, qui a fait des Paris-New York toute sa vie, qui va dire « Eh, oh toi là, tu prends plus l'avion, machin, parce que moi, tu sais, je me suis bien gavé, maintenant, j'ai plus envie de me gaver. » Et ça devient insupportable. C'est inentendable, et c'est insupportable. Ceux qui ont tout fait jusqu'à 25 ans, qui ont vu les plus belles choses du monde parce qu'ils avaient les moyens et qui maintenant vont te faire la morale parce que toi, à 50 ans, tu te fais des vacances à Hammamet à moindre coût, c'est pas entendable.
Robert, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Robert de Savoie, qu'en dites-vous alors ?
Alors écoutez, je suis déjà ravi de vous avoir au téléphone hein, parce que vous êtes mon lien avec la France quand je suis au bout du monde quotidiennement. Et c'est vraiment un plaisir de vous entendre quand on est en Namibie, en Islande ou au Botswana. Hein. Voilà, c'est génial.
Et mon que faites-vous dans tous ces pays ? Vous faites quoi dans tous ces pays ?
Mon métier, c'est de voyager. Moi, je suis le boss d'une petite agence de voyage située en Savoie qui est spécialisée en fait dans l'aventure à travers le monde. Hein, donc j'ai une approche du voyage en petit groupe, hein, très loin des clichés du tourisme de masse distillé par Jean-Marc Lancovici dans des pays pas forcément très touristiques. Là, j'arrive hier, j'étais encore en Serbie, la semaine dernière en Bosnie-Herzégovine, j'étais en Côte d'Ivoire le mois dernier, je repars en Namibie.
Dites-moi, vous avez cramé là votre stock de voyage là.
Ça fait depuis longtemps. Mais très clairement, je pense que Monsieur Jankovici a une vision complètement, je dirais, caricaturale du tourisme. Il se trompe de cible. Il sait pertinemment que ses propositions sont complètement utopiques. L'aviation, le voyage joue un rôle. Enfin, moi, c'est ce que je pense, essentiel dans le développement du tourisme et surtout de l'échange culturel entre les pays. Le voyage favorise la compréhension mutuelle, l'ouverture d'esprit, le renforcement des liens entre les cultures. Alors, faisons un peu de politique fiction. Imaginons un seul instant que cette mesure soit appliquée en France. Alors déjà, des dizaines de milliers d'emplois seraient détruits, des pans entiers de notre économie, notre industrie seraient en faillite, et comme vous le disiez à juste titre, combien de pays dans le monde appliqueraient cette mesure ? Aucun. Donc, il faut arrêter ce type de débat complètement stérile et appliquons-nous, et je sais que les compagnies aériennes le font, à trouver des solutions technologiques viables et environnementales.
Oui, alors après, Jean Covici, moi je pense qu'il il provoque là, il sait bien que cette mesure, d'ailleurs personne n'a repris cette mesure, même les écologistes les plus radicaux, non, mais il dit quand même... Il faut prendre moins l'avion. Et d'ailleurs, pardon, mais le gouvernement nous le dit aussi, hein, Clément Beaune, ministre des Transports, puisqu'il se réjouit d'avoir interdit les liaisons à moins de 2h30 de Paris. Donc, on voit bien, et on veut taxer les jets. Hein. J'ai vu aussi Clément Beaune, le même, très fécond en ce moment, et qui nous explique qu'il faut taxer les jets. Bon, c'est dommage parce qu'on a Dassault qui en fabrique, mais il faut les taxer parce que ça pollue. Donc, il y a quand même, à mon avis, quand même une tendance anti-avion en ce moment. Hein. Il y a...
Oui, mais moi qui voyage à travers le monde, c'est uniquement en France, allez, à une autre petite échelle dans les pays occidentaux et en Europe. Aux États-Unis, les gens prennent l'avion comme nous ici on prend le bus.
Mais voilà.
Mais oui.
Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas changer ça justement ?
Non, ça il faut le changer.
Ça pollue.
Je pense que.
Mais nous, en France, on peut le faire, mais dans certains pays, c'est pas possible.
Par exemple, voilà. Désormais, quand je me déplace dans une ville, je ne me déplace qu'en vélo. Voilà.
Ah, si vous prenez l'avion pour...
Donc vous compensez votre vélo,
eh ben
de l'avion.
Ouais. Je compense.
Hein. Le supplément bagage pour emmener le vélo, il est cher.
Ah oui. Non mais on trouve.
Non mais la question est ce que dit Robert en fait est intéressant, mais ce qu'il faut dire en fait, c'est que plutôt que de dire aux gens. En fait, ce qui est très difficile, c'est quand tu dis aux gens de se contraindre dans un monde qui n'est pas contraint. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, tu dis aux gens, arrête, achète moins de vêtements, alors que partout où tu vas, on te met des affiches de publicité qui te disent d'acheter des vêtements. On te met des vêtements pas chers à portée de main. On te fait des soldes. On te dit, mais n'achète pas.
Tu peux avoir valeur d'exemple aussi.
Mais moi, ce qui m'embête, c'est que cette question de l'écologie devient une question morale. Oui. C'est-à-dire, c'est la morale. Je te fais la morale, tu as acheté ça, tu as été mauvais. Alors qu'en fait, il y a plein de transformations qui peuvent se faire sur l'offre, la production, etc. Et qui, là, sont des combats que le gouvernement devrait imposer. C'est-à-dire qu'à un moment, dire, est-ce que c'est normal d'avoir autant de produits accessibles de fast fashion, machin, etc. D'ailleurs, ça marche de moins en moins pour le coup. Est-ce que c'est bien d'importer des biens à 12 000 km que l'on peut fabriquer chez nous en France, des biens agricoles, de la viande, etc. Est-ce que c'est encore possible, ça ? Non. Donc ça, c'est des vraies questions sur le libre-échange, mais c'est pas de la morale qui repose uniquement sur le consommateur. Voilà. Genre, t'as les avions pas chers, mais tu ne dois pas les prendre. Ça c'est ça qui moi, je pense... Ne sert pas de
combat écologique. Robert, en plus de travailler dans le secteur du tourisme, mais admettons que ça se mette en place, il y a plein de pays qui vivent du tourisme, qui se développent aussi grâce au tourisme. Il y a des populations qui en ont besoin.
La France.
Il y a des populations qui en ont besoin pour vivre aussi.
Paris sans touristes, c'est compliqué.
Mais ça s'inscrit dans cette logique aussi que tiennent beaucoup de décroissance, d'arrêter, parce que la croissance, le tourisme, l'échange, ça ruine la planète aussi, Robert.
Mais vous le disiez tout à l'heure, je pense que ce genre de discours est contre-productif. Je le vois bien avec mes voyageurs et mes clients. Plus on leur tabasse on leur matraque ce genre de discours, plus ils vont prendre l'avion. Hein. Mais c'est l'esprit français.
Il faut quand même avoir les moyens.
Non, pas tellement qu'aujourd'hui.
Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, on en profite avant que ça soit interdit.
Là, je regardais tout à l'heure, tu peux si... Alors, il faut être libre en semaine, mais tu as des gens qui sont libres en semaine, mais tu peux prendre... Demain, tu peux aller à Rome pour 80 euros.
Et parce que, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la proposition Jean Covici et ceux qui disent qu'il faut limiter l'avion, on va revenir finalement à ce qu'on a connu il y a 50 ans. L'avion était réservé pour vraiment les très riches et majoritairement, les gens ne prenaient pas l'avion. Or, pendant 50 ans, on a démocratisé et on a bien connu quelqu'un qui a participé à cette démocratisation du voyage et de l'avion, c'est Jacques Maillot. On a cassé le monopole d'Air France. On a permis à tout le monde de pouvoir voyager. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde peut voyager parce que tu peux avoir des vols, tu te débrouilles, c'est souvent moins cher que le train et tu peux aller loin. Donc
Robert,
en fait, ça serait vraiment un retournement.
Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Robert.
Merci à vous, les GG. À bientôt.
Bonne journée. Et c'est Laurent qui veut discuter aussi avec les grandes gueules. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là, Laurent ?
Oui, je suis là, bonjour.
Voilà, attrapez bien votre téléphone, attention au bruit. Alors, que pensez-vous de ce quota proposé par Jean-Marc Jancovici ?
Ah, moi, je suis déjà révolté. Vous m'avez excité pour la journée, là, en fait.
Non, non, pourquoi, mais... dites-nous.
Bah, c'est une liberté de vie, quoi, en fait. Je suis d'accord qu'il faut faire attention à certaines choses, mais à un moment donné, il faut peut-être trouver d'autres solutions que d'embêter les gens, quoi. Je crois qu'on a, assez donné ces derniers temps, quoi.
Oui.
Moi, j'ai de la famille, de ma femme, qui vit à l'étranger. Ça veut dire que je les vois 4 fois dans une vie.
Bien sûr, c'est ça. Oui. Ça rejoint le premier débat, en fait, sur l'immigration, etc. C'est-à-dire, on est dans une société aujourd'hui avec des flux d'humains. Si de fait, c'est cette société-là, ça va être très difficile après. Pour
les parce que les mêmes qui veulent limiter l'avion sont quand même assez pro-immigration en général. Je veux dire, le discours écologiste, assez ouvert sur l'immigration, donc sur le voyage, sur les gens qui. Alors, ils ne viennent pas tous en avion, malheureusement, ils traversent la Méditerranée dans des conditions terribles, mais bon, plutôt sur le fait qu'on puisse bouger. Mais donc là, c'est assez contradictoire, là aussi.
Laurent, c'est plutôt aux compagnies, aux constructeurs de trouver les solutions aujourd'hui, c'est ça ?
Non, mais totalement. On nous impose trop de choses. Faut une voiture électrique.
Non, mais moi, je suis d'accord avec vous.
Moi, je travaille à mon compte. Je peux pas partir tous les ans en vacances. J'ai deux enfants. Là, je prévois d'aller l'année prochaine vivre mon rêve d'aller en Égypte. Je fais quoi ? Non, mais voyager, ça fait partie des rêves des gens.
Ouais, mais c'est un rêve.
Dans 10 ans ou dans 14 ans, maintenant, je vais avoir 50 ans. Dans 14 ans, je serai peut-être en retraite. Je fais quoi ? Je reste chez moi à la maison.
Il y a beaucoup de gens qui attendent la retraite pour voyager.
Bah oui,
qui disent, voilà, quand je serai à la retraite, je ferai ces voyages.
L'aboutissement d'une vie de travail, c'est ce que tu disais aussi.
Mais Thomas, tout à l'heure, tu disais prendre le bateau. Mais est-ce que c'est prouvé que le bateau est moins...
Non, j'ai pas dit ça.
Non mais
j'ai dit l'inverse. J'ai dit, le bateau est très polluant aussi, que ce soit un bateau à voile.
Aujourd'hui, le transport maritime pollue plus que l'aviation.
Il faut voir ce que ça peut provoquer. Parce que du coup, si tu te retrouves, pourquoi pas, avec ces quotas de voyage, et que tu dis, je veux bouger quand même. D'abord, il faudra mettre des trains en plus. Pardon, si on ne met pas de trains en plus pour que les millions de personnes...
Quatre, ça veut dire quoi ? C'est deux allers-retours ou c'est quatre allers-retours ? Donc Jean Covici n'est pas pris.
Ce qu'on appelle un voyage, c'est l'aller-retour.
Ouais. Il a dit quatre vols.
Quatre vols, c'est deux allers-retours.
Non, mais là où je comprends Jean Covici dans ces... Là où je comprends Jean Covici dans ses propositions, c'est que Jean Covici, il est tout le temps face aux courbes. Et quand tu regardes les 60 ans à venir et que tu vois l'augmentation finalement de la population, de la richesse de la population, de la volonté des 90% qui ne prennent pas l'avion de prendre l'avion, tu te dis comment tout ça va tenir.
Les projections, c'est toujours trompé, pardon.
Bien sûr.
Dans les 70, on nous expliquait qu'en l'an 2000, on ne pourrait plus nourrir la planète et qu'il y aurait des famines partout. La faim dans le monde n'a jamais été aussi faible, même s'il y a encore des problèmes, n'a jamais été aussi faible aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On s'est quand même beaucoup trompé dans les projections. Et on voit bien d'ailleurs que la courbe démographique
va
s'inverser. Vous expliquez comment on fera pour vivre dans un...
Mais ces mêmes écologistes...
Plus un pays s'enrichit, moins il fait d'enfants.
Ouais, mais ces mêmes écologistes,
la Chine, l'Inde, va connaître ce processus.
Cette agriculture intensive qui permet de nourrir tout le monde est aujourd'hui en train de mener à la destruction de la planète. Puisque regarde, on veut réduire le nombre de vaches aujourd'hui dans le pays en raison du méthane.
On veut agir
là-dessus. Tu as prononcé le nom de quelqu'un qu'on aime bien dans les grandes gueules.
Ouais. Jacques Maillot.
Jacques,
bien sûr, j'ai pensé à lui.
Il est avec nous, Jacques.
Salut.
Bonjour,
Jacques.
Salut Elina, salut Anna, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Jacques, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de Jean Covici alors
Je suis en désaccord total avec cette proposition. Vous ne serez pas surpris. Je pense que c'est important qu'on puisse voyager. En plus, une parenthèse. Les avions, quand on regarde le bilan, c'est pas ce qui pollue le plus. Il y a de plus en plus de progrès techniques. Les avions consomment de moins en moins. Et je pense que le point fondamental, il faut qu'on fasse des citoyens du monde. Si on veut faire des citoyens du monde, il faut qu'on puisse aller partout. Ce qu'on peut peut-être faire, par contre, c'est en effet un petit peu limité. À la limite, lorsqu'on fait un long courrier, de rester sur place 4 ou 6 semaines. Ce qu'on faisait d'ailleurs dans les années 90, je me rappelle lorsque j'organisais des voyages au Pérou, il y en a énormément qui restaient 4 ou 6 semaines au Pérou.
Alors 6 semaines avec 5 semaines de congés payés, ça va être difficile. Mais je suis d'accord pour qu'on rajoute une semaine supplémentaire de congés payés. Je suis d'accord.
Concernant par rapport aux congés payés, il n'y a aucune difficulté à partir 4 ou 5 semaines.
D'accord.
Mais Jacques, aujourd'hui, tu estimes qu'on est allé... On a poussé le bouchon trop loin sur l'aviation aujourd'hui ou pas, franchement ?
Mais oui, on va trop loin. J'ai vu qu'on voulait encore aussi taxer. Non, mais arrêtons. En effet...
On veut taxer les jets.
Lorsqu'on supprime un Paris-Bordeaux et qu'on nous dit prenez le train pour aller à Bordeaux, mais Alain, prenons un exemple pour aller à Nice.
Oui. C'est pas pareil, Nice,
train,
c'est 7 heures de train.
Oui, c'est vrai, c'est pas possible. C'est pour ça que je prends régulièrement l'avion.
Quand tu vas passer un week-end à Nice, tu prends le train pour aller à Nice.
Oui, ouais, mais quand tu vas à Bordeaux, c'est 2 heures de train. Ça va, quoi. Tu peux prendre le train plutôt que l'avion, là.
Marseille, ça colle.
Est-ce qu'il n'y a pas.
Quand j'ai organisé les voyages au début, je suis allé à Istanbul en train et je suis allé en Grèce en train.
Mais ce que je comprends pas, Jacques.
Il y avait de l'ambiance.
Jacques, je comprends pas.
C'est vrai qu'on se marrait avant dans les trains.
Ce que je comprends pas, Jacques, c'est qu'il y a un mouvement anti-avion en ce moment et bizarrement, il est mené par la France alors que nous avons encore une industrie aéronautique. On n'a plus grand-chose, mais on a quand même une industrie aéronautique.
On
a Airbus, etc. Donc je comprends pas. Est-ce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied comme on l'a fait avec le nucléaire?
Mais pareil. Non, mais tu as entièrement raison. Je pense qu'Airbus, on est très fort. Actuellement, on bat Boeing et on devrait tout faire pour renforcer notre industrie aéronautique. Mais surtout que j'insiste, il y a des progrès énormes. Oui. Les avions consomment de moins en moins. Les avions polluent de moins en moins. Faut quand même arrêter rapport à ce discours permanent. Et en plus, je trouve que si on veut éviter un certain nombre de conflits, il est important que les citoyens puissent voyager le plus possible pour en faire des citoyens du monde et pas se replier uniquement sur notre petite France.
Jacques, merci d'avoir été avec nous quelques instants dans les GG. On t'embrasse, Jacques.
À bientôt, Jacques.
Bonjour à tous.
En plus fort, Jacques.
Jacques. Le plaisir d'avoir Jacques. Tiens, on va terminer une discussion avec un ancien pilote de ligne, Hugues, qui est avec nous. Bonjour, Hugues.
Oui, bonjour.
Bonjour. D'accord avec ce que dit Jean-Co ou pas?
Merci de me prendre l'antenne. Alors, ça ne se résume pas en ces simples termes, mais ça fait partie intégrante d'un immense débat et d'un immense dossier qui, d'ailleurs, vaudrait le coup d'être un petit peu fouillé par les intervenants, parce que j'ai l'impression quand même que parmi les personnes qui peuvent intervenir, il y a très, très, très peu de connaissances sur le sujet. Et malheureusement, et c'est dommage, puisqu'elles sont toutes disponibles. Monsieur Jancovici, il a effectivement dans ses interventions des propos qui peuvent déranger certaines personnes, mais c'est parce que ses propos sont toujours extraits. Donc il faut quand même recontextualiser. Il a produit un énorme travail avec le Shift Project, qui est c'est du lobbying pour essayer d'infléchir les politiques du gouvernement pour justement aller dans le sens d'une protection de la planète. Mais si vous avez un petit peu le temps et la curiosité, aujourd'hui, la question ne se pose pas en ces termes. On ne peut pas résumer le débat en disant, ben voilà, est-ce que c'est bien de limiter ou pas l'avion?
C'est Jean Covici qui énonce cette règle. Pardon, moi je veux bien qu'il l'ait développé sur 70 pages. Mais enfin, il a très clairement dit qu'il proposait d'instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Ensuite, quand on est plus vieux, on reste en Corrèze et on prend le train.
Oui, mais la question, encore une fois, c'est pas ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le transport terrestre, il y a également les habitations, il y a l'alimentation. Donc, c'est vraiment un pan du problème. Mais si vous voulez, il est pas la question n'est pas de savoir si on a envie ou pas de continuer ou pas à prendre l'avion. La question, c'est de savoir est-ce qu'on le pourra. Et là, on est dans un monde en contraction énergétique, dont le pic d'extraction du pétrole, et ça, c'est étayé par des études, a été atteint en 2008, d'accord? Si vous regardez depuis ces dates-là, vous prenez des valeurs physiques, parce que là, on entend beaucoup d'opinions, ce qui est quand même important dans la vie, ce sont les faits, c'est ce qui est factuel. Si vous prenez les mètres carrés construits, si vous prenez les tonnes chargées dans les camions, on est en décroissance en Europe depuis 2008. Donc factuellement, dans un monde en contraction énergétique, avec un épuisement des ressources fossiles qui ne sont pas renouvelables à notre échelle de temps, puisqu'il faut des millions d'années, on sait pertinemment que l'aviation s'éteindra.
Hugues, là, Hugues, je me permets un truc, parce que moi, je me souviens d'un ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui avait écrit un livre, Pétrole Apocalypse, qui disait qu'en 2010, on ne pourrait plus prendre l'avion, etc.
Et en fait,
moi, je trouve que ce discours est dangereux, parce qu'on a trouvé, en fait, à ce moment-là, des ressources pétrolières non conventionnelles, type pétrole de schiste, sable bitumineux, qui sont des pétroles extrêmement polluants. Et donc, en réalité, la question n'est pas de la non-abondance, ou pas. Peut-être qu'un jour, il y aura ce pic, peut-être qu'un jour, il y aura cette pénurie, mais la vraie question est... Comment on fait justement pour maîtriser notre consommation d'énergie, plus le fait que d'agiter cette fin du pétrole qui n'existera peut-être pas
merci
demain.
Merci Hugues, vous avez conclu notre discussion. On regarde 4 vols dans une vie, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous le souhaitez, oui ou non? Non, 83%, voilà, c'est sans appel.
Jean-Claude Vissi de ne pas se présenter à une élection.
RMC, les grandes gueules.